טוב, בעזרת השם, הפרשת סימן, זה פרשת משפטים. משפטים ודיר לואה. סורטות דה לואה מונטר כיסון מונסיני דונות פרשה. לפרשה קומוס אבק ללט חבב ואלה המשפטים אבואסי ללואה. ראשי דיב פורקו אונדי אבואסי אבק לבב כקונקט אונט לפרשה פרסדונט אינות פרשה. Car la semaine dernière, dans la paracha, nous avons lu à propos du don de la Torah. On a reçu la Torah, les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas blasphémer, et il faut croire en Hachem. Et ensuite de ça, Ve'ele Amishpatim, voici les lois, surtout des lois monétaires qui sont mentionnées dans notre paracha. Et Rashi dit, au nom de nos sages, pourquoi on dit « et voici » pour te dire comme les 10 commandements sont de Har Sinaï, ainsi toutes les lois qui suivent dans cette paracha sont du mont Sinaï. C'est pour ça qu'on connecte entre la paracha et la paracha précédente pour ne pas dire qu'on a reçu que les 10 commandements. Il y en a qui pensent malheureusement qu'on a reçu les 10 commandements. Mais les 10 commandements ont renfermé en eux toute la Torah qui est 613 mitzvot. Il y a 613 et tout ça, ça a été renfermé dans les 10 commandements. Maintenant, on parle surtout de, comme on a dit, de lois monétaires et surtout de la mitzvah de ne pas voler. Rien qu'en pensant que vous sachiez, dans les 10 commandements que vous avez juste ici en haut, c'est ça? Dans la deuxième tablette, c'est écrit Lotignov. Il ne faut pas voler. Rashi nous explique que dans les 10 commandements, on ne parle pas de vol monétaire. On parle de quelqu'un qui a kidnappé une personne et il l'a vendue. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est écrit juste avant, l'otirtsar, il ne faut pas tuer. Comme ne pas tuer se réfère à quelque chose qu'on a fait à quelqu'un au niveau de son âme, tuer, c'est de lui prendre l'âme. Ne pas voler, c'est aussi lui prendre l'âme. Voler quelqu'un, kidnapper quelqu'un, le vendre, tu ne sais pas s'il va rester juif, tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir de cette personne, c'est voler son âme. Dans notre paracha, c'est écrit carrément de ne pas voler. C'est ça? Alors, dans le 10 commandements, on ne parle pas du vol monétaire. On parle du vol d'une âme. C'est ça? Et la peine, pour ça, c'est quoi? C'est une peine capitale. Tandis que dans notre cas, il y a des différentes punitions que la Torah va mentionner cette semaine. Alors, c'est deux différentes mitzvot. Mais quand on parle du vol, cette semaine, ou plutôt la semaine dernière, ce samedi, quelqu'un m'a dit quelque chose d'intéressant, que dans le Canadian Jewish News, il y avait un article d'un rabbin avec deux autres juges de la Cour suprême à propos d'un vol qui n'est pas palpable, quelque chose qu'on ne parle pas. Par exemple, quelqu'un a inventé quelque chose et quelqu'un d'autre, il est parti lui voler la chose. Ça veut dire qu'il a pris le droit d'auteur, comme c'est lui l'auteur de l'invention. Est-ce que ça s'appelle du vol selon la Torah? Il lui a rien volé, il lui a pas pris de l'argent. Peut-être il va faire de l'argent, mais il lui a pas volé cet argent. Est-ce que selon la Torah, ceci rentre dans la catégorie du vol? Alors voilà un midrash intéressant. Regardez qu'est-ce qu'il dit toujours selon la Torah. Toujours selon la Torah. Regardez qu'est-ce qu'il dit le midrash. Dans un midrash qui s'appelle la Mechilta, c'est ça? Hein? Il y en a qui disent que ça se réfère à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est écrit, il y a 7 type du vol. Quand on dit voler, il y a 7 types de vol différents. Premier, de voler le gnevat adat, de voler la pensée de quelqu'un. Ça veut dire quoi? La Gemara explique, tu rentres dans un magasin et tu n'as pas l'intention d'acheter. Tu n'as rien à faire, tu veux gaspiller ton temps, tu attends un rendez-vous. Alors tu rentres dans un magasin, tu veux tourner comme ça. Tu n'as pas l'intention d'acheter, même si tu le trouves en spécial. Alors tu rentres et tu regardes, tu demandes le prix. Selon la Torah, ceci s'appelle voler. Pourquoi? Parce que le vendeur ou le patron, s'il est là, qu'est-ce qu'il pense maintenant? Ah voilà, un grand poisson est rentré, voilà, il va acheter quelque chose. Je vais lui vendre quelque chose. Ça? Et toi, tu sais que tu ne vas pas acheter. Ceci s'appelle du vol. Qu'est-ce que tu as volé? Tu as volé le da'at. Tu as volé la pensée de quelqu'un. Alors vous voyez, qu'est-ce qu'il a volé? Il n'a pas volé quelque chose. Voler une pensée de quelqu'un s'appelle voler. Tu fais croire à quelqu'un, tu vas venir ce soir chez lui. Est-ce que tu vas venir ce soir? Oui. C'est ça? Et tu n'as pas dit blinéder. C'est ça? Quand tu invites quelqu'un, tu dis, est-ce que tu vas venir? Oui, blinéder. Tu sais, déjà, tu sais, c'est 80% non. Blinéder, c'est sûr, presque non. Qui t'attend pas? S'il vient, Baruch Abba. S'il vient pas, il a dit blinéder. Je savais depuis le départ qu'il ne va pas venir. Mais si quelqu'un dit, oui, je viens. À la fin, il ne vient pas. Mais il avait l'intention de ne pas venir. C'est pas qu'il s'est fait une situation où il ne pouvait pas venir. Depuis le départ, il ne voulait pas venir. L'autre l'attendait. Alors il a volé l'intention, la mahashava, l'intention. Dit le Midrash, ceci rentre dans la catégorie du vol. C'est ça? Maintenant, quelle punition? C'est sûr qu'on ne peut pas le condamner au Bedin. Ça, parce que c'est quelque chose qui vaut moins qu'une pièce, moins qu'une prouta. On ne va pas l'emmener au Bedin. Mais ça s'appelle du vol. Dans le ciel, dans son bouquin, on va écrire Réhouven. Il a fait croire à quelqu'un qu'il est rentré pour acheter. Alors c'est du vol. Alors comment on évite cette situation? Quand tu rentres dans un magasin et tout de suite il y a 2-3 vendeurs qui s'attaquent à toi, qu'est-ce que tu lui dis? Je suis venu pour regarder. Alors il dit, ah ok, tout de suite il te laisse, il continue. Alors comme ça tu es propre. Oui, tu peux regarder, personne, le magasin est fait pour regarder. Tu peux lui dire, peut-être tu vas revenir une autre fois pour acheter. Mais au moins il sait, tu n'es pas rentré pour acheter. Si tu achètes, c'est bien. Si tu achètes pas, il savait depuis le départ que tu n'es pas rentré acheter. Mais il faut lui dire, je suis rentré pour regarder, je regarde. Alors lui, déjà, je regarde, pour lui, c'est peut-être tu ne vas pas acheter. Une autre chose, bête, il dit ici, Gnevat adat veramaut bemamon. Tu lui voles sa pensée, mais tu lui as volé de l'argent aussi. Tu lui as volé de l'argent. Comment? Il y avait une chose, il pouvait faire de l'argent. Il dit, ah, c'est pas bon, c'est pas pour toi, allez, c'est une bêtise et tout ça. Lui, il a laissé, toi, tu es venu, tu l'as pris. Alors, lui, il pouvait gagner, c'est ça? Ou peut-être même il est perdant dans l'affaire. Il a acheté quelque chose, tu lui dis, vends-le, ça vaut rien. Il a vendu pour rien du tout, et toi, tu es venu l'acheter et tu as fait de l'argent. Ça s'appelle, tu lui as volé sa pensée, et en plus de ça, tu lui as volé comme de l'argent. Parce qu'il aurait gagné de ça. À cause de toi, il a perdu de l'argent. Ça s'appelle un deuxième niveau de vol. Troisième niveau, Gnevat Isuréana, chez Patourmi le Shalem. Quelqu'un qui vole quelque chose qu'on ne peut pas en profiter. Il a volé quelque chose qu'on ne peut pas en profiter. Je vous donne un exemple peut-être bizarre, mais rien que vous comprenez, vous savez que quand il y a du lait et de la viande qui se mélangent, et ça devient interdit, il est interdit d'en profiter de ce mélange. Au point que il y a une manière, même se débarrasser de ça, on ne peut pas le jeter à la poubelle. Normalement, il faut creuser dans la terre pour l'enterrer, ou le verser dans la chasse, c'est ça, ou le jeter dans la mer. Selon le Rabbi Yishraï, même dans la mer, non. Pourquoi? Parce que le lait et la viande qui se mélangent, à Sourbana, il est interdit d'en profiter, même pas un animal. Même pas un animal. C'est-à-dire, même si tu as un chien, tu n'as pas le droit de lui donner. Alors, il faut se débarrasser de ce mélange d'une manière que personne n'en profite. Alors, il y a quelqu'un, Réhouven est venu chez Shimon, il lui a volé la marmite avec, pas la marmite, le manger. C'est ça? Il ne peut rien faire avec, mais c'est du vol. Le deux ne peut rien faire avec, mais c'est du vol. Il saurait en un, voler quelque chose qu'on ne peut pas en profiter. Le Midrash, il dit, Patour Meleshalem, le Bet Din dit, va chez toi, tu as volé, mais on ne peut rien te faire parce que ça ne vaut rien, ça ne vaut même pas un sou. Quatrième niveau du vol. Gneva, Shechayav, Lachzira, Kakeren. Il a volé, mais il doit retourner rien que le capital. Quel est le cas? Il a volé quelque chose. On l'attrape. Et là, avant que le témoin vienne témoigner sur lui, qu'est-ce qu'il dit? Non, j'avoue. J'ai volé. Ok, où l'objet? Voilà, je l'ai ici. Rends l'objet. Tout ce qu'il a, il a volé. Et qu'est-ce qu'il a retourné? Il a retourné capital. Pas plus que ça. Cinquième niveau. Il a volé, il a nié, il y a des témoins qui l'ont coupabilisé, ça veut dire ils l'ont témoigné comme quoi il a volé, et après on trouve ce qu'il a volé chez lui à la maison, ou quelque part. Mais on sait que c'est lui qui l'a volé. Dans ce cas, l'objet existe toujours, il paiera le double. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu voler, on va dire il a volé un âne, c'est ça? Alors dans ce cas, il paiera deux ânes. S'il a nié, il a dit c'est pas moi, je n'ai pas volé et tout ça, il paiera deux ânes. Sixième cas, Gneva Shechayav Leshalem Arba Vechamisha. Dans notre paracha, il y a une histoire, quelqu'un qui a volé une brebis ou un taureau. Dans ce cas, On lui a dit où le brio dron. Il dit non, je n'ai pas pris tout ça. Il y a des témoins qui sont venus témoigner. On l'a attrapé, mais c'est trop tard. Il a égorgé la brebis, il a égorgé le taureau. Ok? Il paye 4 et 5 fois. Ça? Il paye 4 fois la brebis et il paye 5 fois le taureau. 5 fois le prix du taureau. Mais ça, c'était une loi spéciale rien que pour la brebis et le taureau. Septième niveau. Il a volé quelque chose qui mérite une peine capitale. Alors dans ce cas, c'est le cas de celui qui a kidnappé quelqu'un. Il a volé, ça veut dire il a kidnappé, il a vendu comme esclave. C'est ça, comme il y avait il y a quelques centaines d'années que les gens faisaient. Dans ce cas, il mérite une peine capitale. Mais le Midrash, il dit, il y a un autre type de vol. Il dit quelqu'un qui rentrait chez quelqu'un et lui a volé les paroles de Torah. Il lui a volé les paroles de Torah. C'est ça? Le Midrash dit, « Afalpi shinikra ganav, même que celui-ci est appelé un voleur, il peut garder tout ce qu'il a volé. Et il ne faut pas l'humilier, il ne faut pas lui dire « tu es un voleur », il ne faut pas l'appeler un voleur. Et à la fin, il paiera l'objet volé 7 fois. Comment? Il va donner des cours de Torah. Veut dire, alors, ici, il donne un exemple. Il y avait une histoire dans le Talmud d'Hillel Azaken. Vous avez entendu d'Hillel. On connaît tous les deux maisons d'études, les grandes maisons d'études, Beth Shammai et Beth Hillel. C'est ça? Hillel, c'est le maître. Beth Shammai et Beth Hillel, c'est la maison d'études. Mais Shammai et Hillel, ils étaient le maître. Hillel était pauvre. Il gagnait à l'époque, on va dire, si on traduit aujourd'hui, peut-être $1 par jour, qui n'était pas suffisant pour faire beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec le dollar? Il divisait le dollar en deux. La moitié du dollar, il donnait à sa femme pour acheter un peu de pain, de l'eau, ce qu'elle pouvait acheter avec. L'autre moitié, il payait pour son étude. Parce qu'à l'époque du Hillel, l'étude était payante. Tu veux rentrer étudier, tu dois payer. Et c'est comme ça qu'il faisait durant des années. Il allait couper de bois. Et avec le bois le bûche du bois qu'il vendait, il payait son étude. Et la moitié, il payait à sa femme. La Gemara dit, un jour d'hiver, il n'arrivait pas à couper le bois parce que le bois était trop dur. Mais il a dit quand même, j'irai écouter la Torah. En venant au cours de Torah, il y avait un gardien à la porte. Il dit, où tu vas? Il dit, je veux étudier la Torah. Il dit, non, il faut que tu payes. Il dit, je vais pas. Il dit, alors tu rentres pas. Il n'a pas laissé rentrer. Mais donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il est monté sur le toit. Il est monté sur le toit de la maison d'études et il écoutait par la fenêtre le cours. Alors il arrivait à écouter. Ok? Maintenant, c'est comme du vol. C'est comme du vol parce que tu n'as pas le droit d'écouter, profiter quand il faut payer. Mais donc, il n'a pas fait attention. Il faisait tellement froid, il a gelé. Entre-temps, il y a la neige qui commençait à tomber et l'a couvert. Là, le deux grands maîtres, Shmaya et Avtalion, un disait à l'autre, mais dis-moi, pourquoi la chambre s'est obscurcie comme ça? Il dit, peut-être la neige. Il dit, mais la neige est blanche. Ça ne devrait pas s'obscurcir comme ça. Alors, il regarde par la fenêtre, en haut. Il voit, regarde, dis-moi, ça n'a pas l'air d'un homme là-bas? Il dit, je ne sais pas. Il dit, mais je crois qu'il y a quelqu'un sur le toit. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, on va aller vérifier. Ils sont partis vérifier. Effectivement, ils ont trouvé Hillel Azaken qui était gelé. Tout de suite, ils l'ont emmené. Ils ont fait un feu. Ils l'ont chauffé, ils l'ont donné à boire du chaud, une soupe, du thé, tout ce qu'il faut. Ils l'ont réanimé un peu. Jusqu'à ils lui ont dit, qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Il dit, écoutez, aujourd'hui, il ne pouvait pas payer. Alors, il a dit qu'au moins qu'il écoute par la fenêtre, mais il a gelé. Alors, ils ont dit, tellement tu aimes la Torah? Il dit, oui, j'aime la Torah. Il dit, dans ce cas, de rien avant, tu rentres gratuitement ici pour étudier. Ils lui ont donné le... Mais entre-temps, il a appris des choses gratuitement, qu'il a, si vous voulez, entre guillemets, volé. Mais qui est devenu Hillel? Un grand maître d'Israël qui a enseigné à tout le monde. Alors tout ce qu'il a volé comme cours de Torah, il a payé 7 fois. Ça veut dire qu'il a enseigné aux autres. Ça, c'est un vol qui est permis. Ça, c'est un vol qui est permis. Okay? Alors le Midrash, il dit, voilà, ce type de vol, il est permis. C'est sûr que ce n'est pas conseillé à faire, mais c'est permis. Et on dit pourquoi? Pourquoi ce permis, ce type de vol? Alors on explique pourquoi, regardez. C'est écrit dans la Gemara, dans Maseret Nida. Darash Rabbi Samlai, il enseigne. Quand un bébé, il est dans le ventre de sa mère, On lui enseigne toute la Torah de A à Z. Toute la Torah. En 9 mois, il apprend toute la Torah. Il n'y a pas un coin de la Torah qu'il ne connaît pas. Il connaît toute la Torah. En sortant de le ventre de sa mère, il y a un malach qui vient, il lui frappe ici, sur les lèvres, et il lui fait oublier toute la Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce bébé, il va s'enseigner lui-même, ou il va être enseigné par quelqu'un d'autre, pour reprendre toute l'étude de la Torah perdue et oubliée. C'est ça? Alors maintenant, il dit ici que peut-être l'étude qu'il vient de voler, écouter gratuitement quand c'est payant, peut-être c'est quelque chose qui lui appartient à son âme. Alors en vérité, c'est quelque chose qui lui appartenait. Seulement ce monsieur ou ce rabbin, il avait en possession. Alors tout ce qu'il fait, il fait retourner un objet qui est à lui. C'est ça? Et c'est de là qu'il vient une grande question. Est-ce qu'on a le droit de copier des CD de Torah? Ça, vous savez qu'une des grandes questions aujourd'hui dans le monde en entier, c'est la copie des CD, des DVD, de tout ce que vous voulez. Hier, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas comment la discussion est sortie. Oui, je vais vous dire comment la discussion est sortie. Tout ce que les jeunes sont préoccupés aujourd'hui, c'est l'iPhone. iPhone. Toute la journée, il y a une application comme ça, une comme ça. Toute la journée, tu vois la prière, il est en train de texter. Il fait la prière, il le prie avec le soudour dans le iPhone. Toute la journée, iPhone. On dirait que c'est devenu une part d'eux. Et tout ce qu'il faut, c'est une ficelle qui l'attache le iPhone à lui. C'est tout ce qui manque. Mais toute la journée, tu le vois, le iPhone. Alors hier, quelqu'un a posé une question. Comment il m'a dit ça? Ah oui, ils ont un truc. Ils arrivent à jailbreak. Ça veut dire sortir l'iPhone de sa prison. L'iPhone est dans une prison par la compagnie Apple. Et ils ont une manière de casser le système. Et là, tu peux downloader toutes les applications gratuitement. Il s'appelle ça jailbreak. Le iPhone est dans le jail et tu le break. Tu le sors. Toi, de la paracha, il y a un esclave hébreu. Il y a Tzala Hofshi Chinam. Il sort gratuitement. Il sort libre. C'est exactement la même chose. Alors, quelqu'un m'a posé la question, c'est permis. Je dis, regarde, moi, je ne connais pas tout ce que... Est-ce que c'est permis, c'est pas permis? Il dit beaucoup qui font ça. Alors, il y a quelqu'un qui est de côté, il me dit, ah, tu sais, en New Zealand, il y a un monsieur qui a fait 140 millions de dollars. Il dit, 140, comment il a fait ça? Il dit, c'est simple. Il a mis sur l'Internet et sur les applications de téléphone un download de tous les DVD, tous les films que tu dois payer. Tu rentres dans le magasin, tu dois payer. Lui, il l'a mis gratuitement sur l'Internet. Je dis gratuitement, alors comment il a fait d'argent? Il dit la publicité. Tu vas dans son site, tu peux downloader tout le DVD, je sais pas qu'est-ce que tu peux downloader là-bas. Alors il dit tout gratuitement. Seulement, il y a des gens qui veulent mettre la publicité. Avec ça, il a fait 140 millions de dollars. Maintenant, on m'a dit qu'ils l'ont mis en prison la semaine dernière. C'est ça? Pourquoi ils l'ont mis en prison? Le gouvernement l'a attaqué. Qui leur a fait perdre 600 millions de dollars. Comment 600 millions de dollars? Parce que tout ce qu'il a donné gratuitement, c'est des clients potentiels. Alors, c'est comme s'il leur a pris de l'argent parce que l'industrie comment ça s'appelle? Non, pas DVD, movies, le cinématographie, c'est ça, tout ça. Ils sont perdants maintenant. Waouh, toute une histoire. On dirait qu'on est dans un film. Il m'a raconté ça, je lui ai dit, c'est pas croyable. Il a dit, mais lui, il les attaque maintenant. Qu'il avait droit de faire ça. Alors, pour vous dire, le monde d'aujourd'hui, c'est downloader, téléphone, tout ça. C'est ça? Alors maintenant, une question. Il y a tellement de cours de Torah sur l'Internet qu'il faut, même maintenant, il y a des sites qui te disent, au moins, achète-le pour $2, pour $1, c'est ça? Ou tu achètes des DVD de Dvar Torah. Je ne sais pas, il y a des DVD qui se vendent à $5. Est-ce que quelqu'un t'a passé un DVD, un Dvar Torah? Je ne parle pas de la musique. D'un Dvar Torah. Est-ce que tu as, et c'est coûtant, est-ce que tu as droit de le copier? Est-ce que tu as droit de copier? Alors ici, il dit que, j'ai écouté ça aussi de Rav Odia Yosef, le Dvar Torah, personne n'est propriétaire sur un Dvar Torah. Personne n'est propriétaire. Le Dvar Torah, ça appartient à tout le monde. Et c'est vrai, toi, tu t'es assis, tu as fait une heure de discours, tu as écrit une Dvar Torah. Ça. En passant, on pouvait copier ce Dvar Torah. Si ça vous intéresse, moi, je ne charge pas. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui disent, non, moi, ce Dvar Torah, il faut que tu payes $2 pour downloader. Ou il faut que tu payes $5. Il y a quelqu'un qui est venu, il te l'a passé un CD, tu veux faire une copie. Est-ce que tu peux le faire? Rav Odia Yosef dit, sur le Dvar Torah, il n'y a pas de propriétaire. Il n'y a pas de propriétaire. Voilà le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il dit, il y a un vol qui est permis. C'est quoi le vol qui est permis? Tu as pris une Dvar Torah, mais après, est-ce que tu vas le garder pour toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette Dvar Torah? Tu vas le vendre? Non! Tu vas aller, tu vas enseigner. Alors, tu vas le payer, ce Dvar Torah. Ça veut dire que ce Dvar Torah que tu as volé, en vérité, tu vas le payer 7 fois plus. Comment tu enseignes à des autres? Alors, on ne parle pas dans un cas qui copie la musique. La musique, c'est différent. C'est un problème, c'est ça? Ou toutes sortes de... Comment? C'est Torah. La tefila, c'est Torah. C'est à moins que quelqu'un a inventé quelque chose de spécial. Je sais pas. Il a inventé un sidour très spécial. Tu peux pas lui voler ça. Et ça c'est, tu peux avoir un sidour normal. Maintenant, tu veux un sidour spécial. Non, ça, il faut payer. C'est ça. Mais une Dvar Torah, tu peux chercher dans le livre. Alors, c'est vrai, tu peux chercher, tu as eu tout prêt. Mais au moins, tu as une Dvar Torah que tu peux enseigner aux autres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais pour vous dire, il y a tellement de questions, qu'est-ce qu'on peut copier et tout ça, on dirait que tout le monde, aujourd'hui, c'est la base de tout, et c'est une paracha très importante. Hier, j'étais quelque part, il y a un rabbin qui m'a posé une question très intéressante. Quelqu'un qui lui a posé à lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Alors, il m'a dit comme ça, il y a quelqu'un dans une station d'autobus, ça avec un petit enfant, il fait très froid d'or. Il y a un autre religieux qui passe, il dit, allez, monte, il fait froid d'or, je vais t'emmener chez toi, monte. Alors l'autre, il monte en arrière, donc je crois que c'était une vanne ou quelque chose comme ça. Il monte en arrière, le petit enfant, lui, il est assis, il attrape le petit enfant debout, il commence à rouler, qui se le revoit, un policier. Il les arrête, il dit, monsieur, le petit n'est pas attaché, un ticket. Mais qui c'est qui reçoit le ticket? Le conducteur. C'est pas celui qui est en arrière avec le petit enfant. Maintenant, qui c'est qui doit payer cette contravention? C'est ça? Est-ce que le conducteur, parce que c'est lui qui a fait monter l'autre, ou c'est lui qui n'a pas pris la précaution de faire asseoir son fils, l'attacher au moins avec une ceinture. C'est vrai, peut-être qu'il aurait dû avoir un siège pour enfant, mais au moins avec une ceinture, c'est ça? Alors on a cherché, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est le conducteur qui doit le payer. Pourquoi? C'est sa responsabilité, c'est ça. Et il y a une halakha intéressante. Ça veut dire, tu ne peux pas dire, c'est pas quelque chose qu'on peut juger de nous-mêmes. Vous allez voir, je vais vous expliquer que toutes les lois monétaires mentionnées ici, c'est des lois qui sont logiques, mais selon la Torah. On ne peut pas les inventer. Vous allez voir bientôt. Mais pour vous dire, rien que pour ce cas spécifique, si des goïms, des non-juifs, s'attaquent à un juif, et il lui prend de lui de l'argent, mais pourquoi il s'attaque à lui? Il s'attaque à lui parce qu'il a mis de quelqu'un un autre juif. Il dit, l'autre, on ne sait pas où est-ce qu'il est, on ne peut pas l'attraper, alors c'est toi qui vas payer. Ils lui ont pris de l'argent. Maintenant, est-ce que celui qui a été pris de l'argent, il peut retourner chez son ami et dire, hey, c'est pas à moi qu'ils sont attaqués, c'est à toi, mais ils ne t'ont pas trouvé. Alors, si tu me dois cet argent, oui. Alors, il y a une halakha qui dit que si l'autre ne leur devait pas de l'argent, rien qu'ils voulaient lui faire sortir de l'argent, ils ne l'ont pas trouvé, ils l'ont pris de celui-là, il n'a pas besoin de payer. Mais si l'autre leur devait de l'argent, et ils se sont attaqués au deuxième pour sortir l'argent du premier, il doit lui payer. Ok? Alors, ça c'était une halakha. Maintenant, revenons à notre cas. Ça? Quand quelqu'un conduit dans une voiture et quelqu'un en arrière ne met pas une ceinture, qui c'est le responsable? C'est lui qui n'a pas mis la ceinture ou c'est le conducteur? Le conducteur. C'est ça? Dans ce cas, le policier, il ne s'attaque pas au passager, il s'attaque directement au conducteur. Et c'est quoi le cas? Si le goïm s'attaque à une personne pour lui dire, à l'autre, on ne sait pas où ce qu'il est, tu nous dois à toi, dans ce cas, l'autre, il est pas tour, il est exempté. Alors, dans ce cas spécifique, c'est le conducteur qui a dû payer. Seulement, si l'autre, il veut être gentil, il lui dit, tu écoutes, tu m'as fait un faveur, tu m'as ramassé dans une journée froide, je peux te payer. Ça, c'est chassidoute. Ça, c'est une mesure de piété. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Alors, pour vous dire, voilà, il y a deux vols qui sont permis. Il y a la plupart de vols sont interdits. Il y a deux vols qui va payer. Il y a des vols qui sont rien qu'enregistrés pour l'autre monde. Mais le vol, comme tel, est interdit. Il y a 7 type de vol, et le huitième, c'est un vol de paroles de Torah. Maintenant, Rashi, le premier, dans la paracha, c'est écrit, Ve'ele amishpatim ashir tassim lifneim, voici les lois que tu mettras devant eux, ki tiknev et divri, et voilà, toute une suite. Rashi dit, ashir tassim lifneim, que tu mettras devant le peuple d'Israël, c'est ça? Lifneim, dit Rashi, au nom de la Gemara, Gitin, velo lifne goyim. Qui veut dire, tu n'as pas à aller te faire juger. Tu as une litige avec quelqu'un. Tu n'as pas le droit de l'amener dans la cour civile. Asher tassim lifneim, tu mettras devant eux, ça veut dire des juifs comme vous. Dans la cour, dans la cour juive, ça, dans ce qu'on appelle le bedin, le tribunal juif, ça. Mais tu n'as pas le droit d'emmener quelqu'un dans un tribunal goy, ça. Ça veut dire dans la législation de goyim, parce que c'est interdit dans notre Torah. Rien que pour vous dire jusqu'à quel point c'est interdit. Jusqu'à quel point c'est interdit. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Maïmonide. Le Maïmonide, il dit la chose suivante. Il dit dans la loi de Sanhedrin, le chapitre 26, halakha 37, il dit comme ça: tout celui qui emmène un jugement devant un tribunal qui n'est pas juif, mais il dit même si eux, ils ont dans cette loi spécifique dans laquelle il a emmené dans la cour, ils ont le même raisonnement que le nôtre. Ça veut dire que dans la Torah, tu vas trouver beaucoup de fois que notre raisonnement de la Torah est complètement différent des raisonnements de la cour civile. Mais on va dire que la question, elle est dans une loi qui est pareille et dans le tribunal juif et dans le tribunal civil. Et quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, il ne voulait pas s'adresser au tribunal religieux, alors il est parti voir un tribunal civil. Dit le Maïmonide, même si c'est le même, c'est le même jugement, ils vont juger de la même manière. Alors il dit ici, Chiref vegidef veerim yad betorat Moshe Rabbeinu. Il a blasphémé et comme s'il a mis la main sur la Torah de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Chez Nehemar, comme il a dit, ve'ele amishpatim asher tasim lifneim. Voici le loi que tu mettras devant eux, lifneim velo lifnei akum, devant eux et pas devant la cour civile. Comme ça dit le Maïmonide. Ok? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye. Un de Rishonim, il y a 900 ans à peu près. Il dit comme ça: tout celui qui laisse la loi juive et il ne rentre pas dans un tribunal pour régler sa litige avec son prochain, et il va dans une cour civile pour se faire juger et régler ses problèmes, il dit ici, il est connu qu'il y a des avérotes graves dans la Torah, comme le meurtre. Quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est très grave. Ça, c'est une avéra très grave. Et il dit, et la punition est très grave aussi, ça. Et il dit que Hachem ne lui pardonnera pas, mais quand même on trouve que celui qui a commis un meurtre, il est pardonné avec la teshuva. Quelqu'un qui a commis un meurtre, et après un certain temps il regrette, et vraiment il regrette. Il fait teshuva, il pleure, il demande pardon, il étudie la Torah, il donne la tzedaka, il fait tout ce qui est possible pour lui de faire pour expier sa faute. Même le meurtre est expié, comme on a trouvé chez Caïn. Caïn, le fils d'Adam, il a tué son frère, Hevel. Et quand Hachem voulait le juger, Caïn a fait tchouva, il s'est repenti, il a dit à Dieu: Dieu, tu ne peux pas me donner une chance. Il dit: bon, tu te repentis, tu veux retourner sur tes pas et faire tes tchouva, pas de problème, je te pardonne. Alors même le meurtre est pardonné, il dit le Rabbeinu Bechaye, qui est une haine de péché le plus grave qu'on peut exister. Mais il dit ici, voilà une chose qui paraît banale et facile, et la tchouva n'aide pas. Le vol. Le vol, c'est lui qui vole à quelqu'un, c'est ça, même s'il lui vole un sou, un dollar, c'est ça, comme ils disent en français, c'est la même chose en hébreu, mais qui vole un œuf vole un bœuf, c'est ça, c'est la même chose. Mais c'est lui qui vole, il dit ici, la tchouva n'aide pas. Tu peux faire tchouva d'aujourd'hui jusqu'à demain, jusqu'à la fin de ta vie, ta tchouva n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument, pour faire tchouva, retourner l'objet volé. Tu vas faire tchouva. Tu as volé de quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui as pris? Un dollar. Rends-lui le dollar. Après, tu fais tchouva. Tu lui as volé 10 000 dollars dans une affaire. Rends-lui les 10 000 dollars. Après, tu fais tchouva. C'est ça? Alors, il dit ici, le Rabbeinu Bechaye. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas pardonnable. Et s'il ne retourne pas, enon imchal lo leolam, il ne sera jamais pardonné. Vechen chilul Hashem, en a tchouva mo'ilabo. Quelqu'un qui profane le nom de Dieu en public, jamais il sera pardonné. Quelqu'un qui profane le nom d'Hachem en public ne sera jamais pardonné. Alors il dit ici, dans ce cas, il dit quelqu'un qui va dans une cour civile et eux ils vont juger à leur manière, à leur manière. Tout d'abord, c'est du vol. Parce que maintenant, ils ont culpabilisé quelqu'un qui ne devrait pas payer. Parce que selon la loi civile, voilà, tu es coupable. Mais s'il serait parti dans un tribunal juif, il ne serait pas coupable. Il n'aurait pas payé. Maintenant, tu lui as fait payer quelque chose qu'il ne doit pas, c'est du vol. Il t'a payé. C'est vrai qu'il t'a payé selon le loi de la, du pays, mais selon la loi de la Torah, il était exempté. C'est comme si tu as volé cet argent. Tu lui as volé en cours, mais tu l'as volé. En plus de ça, tu es parti dans une cour civile pour dire comme si le Bedin, le tribunal ne vaut rien. Ça s'appelle Chilul Hashem. C'est comme si déshonorer Hashem pour dire que ta Torah ne vaut pas. Hashem, tu sais, tu es bon pour la Torah, mais tu n'es pas bon pour la loi monétaire. C'est Chilul Hashem. C'est comme déshonorer Hashem. Ça, c'est deux péchés, dit Rabbeinu Bechaye, qui n'ont pas de pardon. Qui n'ont pas de pardon. Tant que tu ne lui rends pas l'argent que tu lui as pris en cours, même si la cour l'a décrété, le juge l'a décrété, tant que tu ne lui rends pas cet argent, jamais tu seras pardonné. En plus de ça, jusqu'à la fin de ta vie, même si tu fais tshuva, le Chilul Hashem que tu as fait, tu es parti voir une cour civile au lieu de la cour religieuse qui est le Beit Din, tu ne seras pas pardonné. Il dit, tu fais deux fautes qui ne sont pas pardonnables. Alors il dit, Rabbeinu Chaya, combien il est grave, Chilul Hashem, et vol, c'est lui qui ne va pas dans une cour pour arranger ses problèmes dans une cour Beit Din, qui est une cour religieuse. Maintenant il dit ici, si tu sais que tu dois, il te doit cet argent. Mais même le Beit Din ne pourra pas lui sortir de l'argent. Ils ont peur de lui ou une raison ou une autre, ils n'ont pas assez de preuves. D'abord, il faut se diriger vers la cour religieuse. Dans le Beit Din, il dit voilà le cas. Eux-mêmes, ils verront qu'ils seront pas capables. Là, eux, ils te donnent un papier. Ils te donnent la permission d'aller dans la cour civile de régler tes problèmes. C'est ça? C'est comme, malheureusement, dans des cas de divorce. C'est ça? Le cas de divorce, avant, c'était rien qu'une question de guette. Aujourd'hui, c'est plus que les guettes. C'est toute une question monétaire. La moitié pour l'homme, la moitié pour la femme. Des fois, c'est plus pour lui, plus qu'elle. Est-ce qu'il doit payer pour les enfants, tout ça? Il y a plein de questions. Alors, même la cour religieuse, ils vous disent, ils vous donnent le papier. Allez-y, réglez vos problèmes dans la cour civile. Et ensuite, vous recevez le guette. On essaye toujours que la femme ait son guette avant. Mais des fois, c'est pas possible. Des fois, alors ils vont donner permission à aller dans la cour civile. Mais ça, il faut le faire absolument avec cette permission. Tant que la personne n'a pas eu cette permission, il n'est pas parti demander cette permission, il est obligé d'emmener son cas dans la cour religieuse qui est le Beit Din. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, Chas v'Shalom, qu'est-ce qui arrive si la cour religieuse s'est trompée? Ça peut arriver, non? Ça peut arriver. Ils ont entendu de les deux côtés, mais pour une raison ou une autre, ils sont trompés. Ils sont trompés de lui dire, ah oui, tu lui dois de l'argent. Mais en vérité, il ne lui doit pas. Regardez ce qu'il dit dans un livre qui s'appelle Degel Machane Ephraim. Le Degel Machane Ephraim emmène le Zohar de cette semaine. Vous savez que le Zohar, il y a la plupart de Zohar, ça va sur la paracha de la semaine. Le Zohar, quand il parle de la paracha cette semaine, il dit Ve'el ha'mishpatim asher tasim lifneim. Voilà les lois que tu mettras devant le peuple juif. Dit le Zohar, voilà les lois de la réincarnation. Et tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce que ça va maintenant, les lois monétaires mentionnées dans notre paracha, avec les lois de la réincarnation? C'est quoi la réincarnation? La réincarnation, c'est quelqu'un, une âme qui descend sur terre, elle est née dans un bébé, que ce soit un homme ou une femme, elle grandit dans ce monde, elle a vécu 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, ça. Et après, quand cette âme retourne dans le ciel, on lui dit, excuse-nous, mais on t'a envoyé pour une mission, tu n'as pas fait ta mission. Dans ce cas, tu es obligé de renaître, de redescendre sur terre et renaître dans un autre bébé pour compléter tout ce qui te manque. Alors ça s'appelle une réincarnation. Une âme qui a déjà été dans ce monde, elle a vécu toute une vie, mais elle n'a pas accompli sa mission qu'on lui a donnée du ciel. Il faut qu'elle renaisse encore dans un bébé pour compléter sa mission. Dit le Zohar, voici les lois que tu mettras devant eux, qui est les lois monétaires, voici les lois de la réincarnation. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vole de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils font du ciel? Quand il arrive au ciel, on dit, mais tu lui as pas retourné son objet volé, Nahon. Tu lui dois de l'argent. Ou tu lui as emmené dans une cour civile pour lui prendre de l'argent. Ou tu lui as volé de l'argent comme ça sans qu'il le sache. Dans ce cas, tous les deux, vous allez renaître et tu vas lui rendre de l'argent. Et Akadosh Baruch Hu fera une situation où celui qui a volé rendra l'argent à la personne qui a été volée. Dit le Degel Machane Ephraim, si quelqu'un va dans la cour religieuse, et il voit une injustice. Il a été coupabilisé sans qu'il soit coupable. Il est 100% sûr qu'il n'est pas coupable. Il est 100% sûr. Pas 99.19. Il est 100% sûr qu'il n'a pas fait. On l'a blâmé de quelque chose qu'il n'a pas fait. On l'a coupabilisé. On l'a obligé de payer quelque chose qu'il ne devra pas payer. Et là, lui, il s'énerve. Ah, si je serais parti dans la cour civile, je n'aurais pas à payer. Et regarde, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Dit le Degé Machane Ephraim, pas du tout. Il ne faut pas que tu t'énerves. Tu as fait la bonne chose. Pourquoi? Il se peut que dans l'autre génération, vous deux, vous étiez là. Et c'est toi qui as volé de lui. Maintenant, Hachem a créé une situation où vous êtes en litige monétaire. Et là, le Bedin s'est trompé, entre guillemets, si vous voulez. Comment le Bedin s'est trompé? C'est impossible qu'il se trompe. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi c'est impossible que le Bedin se trompe. Mais on va dire que le Bedin s'est trompé. Maintenant, ils t'ont culpabilisé, tu dois payer. Ne t'énerve pas, ne veux pas le Bedin. Pourquoi? Parce que tu es en train de repayer une dette. Il vaut mieux que tu payes cette dette dans ce monde, que tu remontes après 120 ans, on te dit, hey, tu es descendu la deuxième fois pour lui payer, tu ne l'as pas payé. Troisième fois, tu redescends. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Alors, il dit, le Degé Machane Ephraim, il n'y a pas des erreurs. Si quelqu'un vous a pris quelque chose et vous croyez qu'il ne devrait pas le prendre, il va le repayer. Ça? Il vaut mieux toujours être propre et retourner des choses. Si vous n'êtes pas sûr, il vaut mieux donner que de prendre. Parce que si tu prends, peut-être tu auras à le rendre. Si tu donnes, si c'est à toi, ça va retourner. Si ce n'est pas à toi, tu as donné quelque chose qui ne t'appartient pas. Je vous ai dit qu'il est impossible que le Bedin se trompe. Pourquoi? Tout d'abord, expliquer pourquoi cette gravité d'expression du Maïmonide par exemple, qui dit que c'est très grave d'aller dans la cour civile, c'est comme lever la main contre la Torah qui était donnée par Moshe Rabbeinu, le Rabbeinu Bechaye qui dit que c'est deux fautes graves. Pourquoi il parle avec telle sévérité? C'est vrai que c'est une Gemara, mais eux ils ajoutent la sévérité de la chose. Pourquoi c'est tellement sévère quand quelqu'un il s'adresse à la cour civile au lieu de s'adresser au Beit Din et régler sa litige dans son peuple? Alors, je trouvais, regardez, c'est écrit dans la paracha de Vaera. Vous vous rappelez l'histoire qu'Avraham Avinu, il a fait la circoncision. Et la paracha de Vaera, c'est écrit qu'Avraham Avinu était assis au seuil de sa tente. Et Hachem est venu le visiter. Avraham était assis parce qu'il ne pouvait pas se lever. Mais c'est écrit qu'Avraham voulait se lever devant un Dieu. Parce que Dieu est venu. Alors, il voulait se lever. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Non. Vous Yoshev, Petachoel, Rachid est là-bas, vous Yoshev, c'est écrit d'une manière qu'Hachem lui a dit, assis-toi. Il était assis, mais il voulait se lever, et la manière que la Torah l'écrit, vous Yoshev, vous Yashav, ça veut dire quelqu'un lui a fait asseoir. Dieu lui a fait asseoir. Il dit, Avraham, ne te lève pas, assis-toi. Pourquoi? Ceci sera une signe pour tes enfants, que quand il y aura un tribunal qui va s'asseoir, moi je viendrai, je serai présent. Comme maintenant tu es assis et je suis venu pour te visiter, ainsi quand tes enfants vont être assis, quand ils ont besoin d'être assis, moi je viendrai. De quoi il s'agit, dit Rashi là-bas, au nom du Talmud, il s'agit d'une cour. Une cour, un Beit Din. Quand un Beit Din est assis, il y a Kadosh Baruch Hu qui vient et qui s'assoit avec eux pour assurer que le jugement sera véridique. Et même s'il le pas, Akash Bokhu est d'accord avec. Je vous donne des exemples. On va donner quelques exemples de quoi il s'agit. Regardez, par exemple, c'est écrit que dans le calendrier hébraïque, c'est ça, on a chaque 3 ans, on redouble le dernier mois du calendrier. C'est quoi le dernier mois? C'est le mois prochain, Adar. Ça, Adar. Nissan, c'est le premier mois dans le calendrier hébraïque, pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Tishrei, c'est le septième mois. Notre premier mois dans le calendrier, c'est Adar. Et c'est Nissan, pardon. Le mois avant, c'est Adar. Qu'est-ce qui arrive chaque 3 ans? Comme nous nous basons sur un cycle qu'on appelle le cycle lunaire, la Lune tourne autour d'elle-même chaque 355 jours. Le calendrier normal, qui est le calendrier grégorien, il est basé sur le cycle solaire, qui est basé sur un tour du soleil autour d'elle-même après 365 jours. Ça veut dire que l'écart entre le cycle solaire et le cycle lunaire est de 10 jours. Ce qui arrive, chaque 3 ans, nous perdons dans notre compte 30 jours. Pour rattraper le retard, qu'est-ce que nous faisons? Chaque 3 ans, le dernier mois de l'année, qui est le mois de Adar, nous le doublons. Alors nous faisons Adar Aleph, Adar Bet. Et là, tu rattrapes un mois perdu chaque 3 ans. Ça veut dire que c'est un cycle. Chaque 3 ans, Adar Aleph, Adar Bet. Encore 3 ans, Adar Aleph, Adar Bet. Ainsi, nous attrapons. Si vous allez vous poser la question, alors pourquoi faire? Pourquoi se rattraper? Compte directement sur le système solaire. Pourquoi compter sur le lunaire? Non, parce que nous sommes obligés de compter sur le système lunaire. Ça, il y a beaucoup de raisons. Mais la Torah nous avertit qu'il faut assurer que Pessah, la fête de Pessah, tombe toujours en printemps. Vous savez, c'est maintenant la nouvelle mode. Pessah, tout le monde sera en Floride. Toute la journée, je reçois d'appels. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... C'est la folie. Mais on dirait que cette année, tout le monde va aller en Floride. Je crois que tout Montréal va être en Floride, ce Pessah. C'est ça? Mais il faut que ça tombe en printemps. Ça veut dire que même ici à Montréal, même si on est, il faut qu'on assure. Alors comment on fait? Adar et Adar pour que ça tombe en printemps. Chamor et trop de chats vivent. Observe le mois de, on observe le printemps. Ça veut dire que le Pessah tombe en printemps. Qui commence à faire beau, qui commence à faire ensoleillé, c'est ça? Alors maintenant, voilà un cas dans le Talmud. C'est écrit, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est basé sur cet enseignement. C'est écrit que une fille, c'est ça, elle a perdu sa virginité. Une fois qu'elle a perdu la virginité, ça ne retombe plus. La fille est comme ça, ça veut dire qu'elle a perdu, elle a perdu. Mais si le père, avant l'âge de 3 ans, ça retourne. Ça retourne. Ça se rebâtit. Et ça, c'est. Elle redevient vierge. Comment vierge? Ça veut dire. Elle a comme une couche qu'ils appellent l'hymen, je crois. C'est ça? Alors, cette couche, si le père avant 3 ans, elle se reforme. Mais si le père a 3 ans, un jour, à partir de 3 ans, un jour, c'est fini. Cette couche, si elle est rupturée, si elle est cassée, ou si elle est tombée, quelque chose que. C'est fini, ça se reprend plus. La Gemara dans le cas suivant, sur Maseret Ketubot, la Gemara dans le cas suivant. Une fille est tombée dans le mois de Hadar. Et elle est née dans le mois de Hadar. Et elle a perdu son hymen. Mais Chachamim, à l'époque, quand on faisait le Kiddush Alvana, la sanctification de la lune par le témoignage, ils ont eu un témoignage comme quoi cette année-là, il y a deux Hadar. Il y aura Hadar et Hadar. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décrété, ils ont ajouté un Hadar de plus. Qu'est-ce qui arrive? Et ce n'était pas prévu, mais ils l'ont décrété. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Cette fille du ciel, ils vont assurer qu'elle réa son humaine. Pourquoi? Parce que c'est un décret. Une fois qu'ils ont décrété qu'il y aura deux Hadar, ça veut dire que l'année 3 de cette fille n'est pas encore terminée. Alors, elle regagne son humaine. Pourquoi un décret de parole de Chachamim? Ils ont décrété, c'est fini. Du ciel, ils respectent. Et là, quelque chose qui est physique et naturel, il est même respecté dans le ciel qu'on lui redonne à retourner avoir ce membrane. C'est ça? Une autre chose, une autre histoire. Regardez, c'est écrit qu'une fois, dans une ville, il y a une femme qui a fait son souper et par erreur, il y a un peu du lait qui est tombé dans un mit dans une soupe. Alors, elle ne savait pas quoi faire. Alors, elle est partie demander le rabbin. Le rabbin, là où il habitait, c'était le grand mais Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna. Elle est partie lui demander. Lui, il a vérifié combien de soupe il y avait, combien de lait est tombé. Il a dit, je m'excuse, madame, mais c'est fini. La soupe est interdite. Il dit, on n'a rien à manger pour le souper. Il a dit, mangez du pain, mais c'est interdit. Top. Elle a dit, le rabbin a dit. Son mari retourne le soir. Il est fatigué, il est affamé. Il veut manger. Et sa femme lui sert quoi? Du pain avec deux olives et c'est tout. Il dit quoi? Tu n'as rien préparé? Je dis, j'ai préparé une soupe pour poulet et tout ça. Il dit alors? Il dit non, parce qu'il y a un peu de lait qui est tombé. Je suis parti demander le rabbi Mila et il m'a dit que c'est interdit. Il dit, mais pourquoi tu es parti le demander à lui? On a le grand rabbin de la ville. Le rabbin de la ville était un grand rabbin aussi. Mais il y avait le rabbin officiel de la ville. Il dit, pourquoi tu es parti pas de lui demander à lui? Il dit, regarde, c'est plus confortable, il est juste à côté. Il dit, non, moi j'ai faim. Il a dit, donne-moi la marmite. Il a pris la marmite, il est parti voir le grand rabbin de la ville. Il lui a montré la marmite, il lui a raconté l'histoire. Le rabbin a calculé, il a pensé, il a dit, non, c'est complètement permis, tu peux en profiter. Alors le monsieur a dit, mais écoutez, il y a le grand de ville là, qui a dit que c'est interdit, alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, pas de problème. Il lui dit, moi et lui, on va venir souper chez vous. Dis-lui que dans une heure, on se rencontre chez vous et lui, il va manger aussi de la soupe. Top. Il est parti le dire au rabbin, le grand Mevina. Et le grand Mevina dit, non, si le rabbin de la ville, qui était officiellement le rabbin de la ville, il a décrété, moi je respecte. Il a dit, je viendrai dans une heure et je mangerai de cette soupe. Pour moi, c'est interdit. Mais si lui décrète, moi, je n'ai pas de problème. Je vais manger avec lui. Une heure après, le deux rabbins, la femme déjà a chauffé la soupe, elle a dressé un peu la table, et le deux rabbins sont présents, et la femme est partie dans la cuisine pour emmener la marmite avec la soupe. Elle veut arriver à la table, au milieu de la route, du chemin, de la cuisine au dîner, toute la marmite s'est renversée, tout s'est renversé par terre. Alors le rabbin, hein, le grand rabbin, il regardait et dit, parce que lui, il est plus sadique que moi. Parce que comme vous lui avez demandé en premier, il a déjà décrété que c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de me demander à moi. Qui veut dire que quand tu vas chez un rabbin, tu lui poses une question, il te dit c'est interdit. Ah, ça ne te plaît pas. Il dit non. Je vais aller voir. Il y a un autre rabbin, je vais lui demander peut-être. Et l'autre qui te dit permis, tu n'as pas le droit. Tu n'auras pas de chance avec ce que tu fais. Parce qu'il y a déjà un décret qui a été décrété par un rabbin. C'est fini. Qu'est-ce qui serait arrivé vice-versa ? C'est ça ? Mais, par exemple, ce que tu peux lui faire selon la loi, la c'est si quelqu'un te dit c'est interdit, quoi que ce soit, je ne sais pas, ça peut être une marmite avec viande, deux fois ça peut être une question de nida, de la pureté familiale, n'importe quoi. Et tu dis non, tu dis, moi j'ai le sentiment que c'est pas vrai. Mais lui t'a dit comme ça, tu peux lui demander d'annuler son décret. Il faut lui demander carrément, il dit écoutez, moi j'ai envie d'aller demander à notre rabbin, est-ce que vous pouvez annuler votre décret ? Si vous dites j'annule mon décret, là tu peux aller demander quelqu'un d'autre. Mais si tu dis non, tu m'as demandé, c'est ça que je te dis, c'est ça qu'il faut et respecter, tu es obligé de respecter. Tu n'as pas le droit d'aller demander quelqu'un d'autre. Parce que une fois qu'il a décrété, c'est fini. Dans le ciel, ils vont respecter ce qui a été décrété en premier. C'est ça ? Même si peut-être c'est pas vrai. Peut-être l'autre rabbin, le grand rabbin, il avait raison. Peut-être. Mais le Galovin a été posé en premier. Il a décrété, c'est fini. C'est un décret qui doit être respecté par tout le monde. Alors maintenant, vous allez comprendre, ça, vous allez comprendre pourquoi le Maïmonide, pourquoi le Rabbeinu Bechaye, Rashi, plusieurs, ils sont stricts. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Rashi, le premier Rashi de la paracha. « Vela mishpatim ashatassim ifnem »« Voici les lois que tu mettras devant eux. » Dit Rashi, quelle est la connexion entre la fin de la paracha précédente et le début de notre paracha? C'est quoi la fin de la paracha? Comment la paracha précédente termine? La paracha précédente termine en disant, si tu veux construire un autel en pierre, il faut faire attention de ne pas tailler les pierres avec du métal. Ça veut dire qu'on avait l'autel sur lequel on mettait le sacrifice dans le temple, il était fait de pierre. On n'avait pas droit de tailler les pierres avec le métal. Alors comment tailler les pierres? Il y avait un miracle qu'ils avaient comme un petit verre qui s'appelait le chamir. Et le chamir, il taillait le pierre. C'était un verre de terre qui taillait le pierre. C'était un miracle. Et c'est comme ça qu'on a eu un misbère qui est carré. Mais on n'avait pas droit de le tailler avec quelque chose, un marteau ou n'importe quoi qui est métal. C'est ça? Maintenant, c'est écrit dans la fin de la paracha, si tu veux construire un misbah havanim ta'aseli, tu veux m'honorer et me construire un hôtel, lo tivne etem gazit ki charbecha enaf talav techalelea, tu n'as pas droit de le tailler ces pierres avec ton épée. Ok? La suite de la paracha, la paracha de cette semaine, vela mishpatim ashet esim fnem, voici le loi que tu mettras devant eux. Dit Rashi, quelle est la connexion entre la fin de la paracha précédente et le début de notre paracha? Pour te dire où tu vas placer les juges qui vont juger toutes les lois qui sont mentionnées de la Torah, juste à côté de l'autel. Qui veut dire que dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait une chambre qu'on appelait l'Ishkat Agazit. Cette chambre était juste à côté de l'autel. Et là-bas, il y avait un tribunal, rabbinique c'est sûr, qui avait le grand rabbin qui était assis là-bas. Ils n'étaient pas Kohanim. Ils n'étaient pas nécessairement Kohanim. Dans le Beth Amikdash, c'est que le Kohanim qui servait. Mais dans cette chambre, il y avait des juges, des grands juges qui n'étaient pas nécessairement Kohanim. Et c'est là-bas qu'ils sortaient tout le jugement d'Israël. Tout le grand jugement d'Israël sortait de là-bas. Pour dire qu'ils doivent être à côté de l'autel. Dans le Beth Amikdash, juste en face de l'autel. Ça s'appelle l'Ishkat Agazit, la chambre de Gazit. C'est ça? Alors, si Akosh Broua demandait que le grand tribunal, ça soit dans le temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Shekhina qui est présente dans le temple. Pourquoi on va au temple? Parce qu'il y a la Shekhina. Hachem est avec le Dayanim, avec le juge. Et là, tout le jugement qu'ils vont donner, ça va être des décrets véridiques. Même s'ils ne sont pas véridiques, Hachem va le respecter. Parce qu'une fois que le Dayan décrète, Hachem accomplit aussi, il respecte, c'est ça? Et maintenant qu'on n'a pas le temple, le Beth Amigdash est détruit, dit la Gemara, où est-ce qu'on peut trouver la concentration de la Shekhina, de la présence divine? Dit la Gemara, là où il y a quatre coudées de halakha. Là où ils apprennent la halakha, où ils décrètent la halakha, la Shekhina se concentre là-bas. Alors vous comprenez bien, quand il y a un tribunal qui s'assoit, trois juges, et à cause de quoi, premier Avram qui viendra, quand il donne un jugement, c'est Akash Baruch Hu qui est là-bas présent en train de sceller leurs paroles et dire vous avez décrété comme ça, c'est comme ça que ça va être. Alors quelqu'un qui va, au lieu d'aller dans une cour de juge des rabbins, il va dans une cour civile, il est en train d'abaisser la Torah, comme dit le Maïmonite. Et ça, il est en train de profaner Hachem, comme pour dire, ah Hachem, les Dayanim, ils ne savent pas qu'est-ce qui passe, c'est pas la même chose, c'est ça. Il est en train de voler de l'argent peut-être. Au point que le Mishnah Brura, il a une halakha intéressante. Il dit, celui qui est parti dans une cour civile n'a pas le droit d'être un chazan. On va dire que le gars, il a une belle voix. Il a attaqué quelqu'un dans la cour civile. Il n'a pas le droit de Yom Kippour, Rosh Hashanah Kippour, ou toute l'année, surtout Rosh Hashanah Kippour, il n'a pas le droit d'être un chazan. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit d'aller à la cour civile. Alors il s'appelle un pochéa. C'est quelqu'un qui est en défaut. C'est ça? Il dit, à moins qu'il a fait tchouva, dit le Mishnah Brura, à moins qu'il a fait tchouva, mais qu'il ne doit pas de l'argent à l'autre. Par exemple, dit le Mishnah Brura, si c'est une loi qui est jugée de la même manière, et dans la cour rabbinique, et dans la cour civile, et lui, il a préféré aller à la cour civile, qui n'avait pas le droit, et à la fin, ils ont donné un bon jugement, qui est exactement comme notre Torah, ça veut dire que l'autre, il n'a pas été pris de l'argent. Alors, si l'autre, il n'a pas été pris l'argent plus que la Torah l'aurait culpabilisé, et en plus de ça, la personne a fait tchouva, c'est là qu'on peut l'accepter pour devenir chazan. Mais si il lui a pris plus de l'argent que la Torah l'aurait pris, dans ce cas, il faut qu'il lui rende l'excès de cet argent qu'il lui doit, et ensuite faire tchouva, et c'est là qu'il peut être chazan. Pour dire au point que même pas chazan dans la synagogue, là, cette personne ne peut pas faire. Ça veut dire que c'est vraiment grave que ça n'arrive pas. Qu'une personne doit aller avec une litige dans une cour rabbinique. Mais si ça arrive, il faut savoir que l'adresse, c'est la cour rabbinique, non pas la cour civile, parce que la Torah nous oblige de le faire. C'est notre fierté, que dans la Torah, on a des lois qui sont véridiques. Que des fois, dans la cour civile, c'est des lois que la plupart du temps sont basées sur notre Torah, mais ce n'est pas toujours. Alors, on ne peut pas prendre une chance, même pas sur un cas, qui la personne sera culpabilisée et elle va devoir plus que la Torah l'aurait pris, parce que la Torah dit chaque dollar qu'on prend d'une personne, c'est comme lui prendre l'âme, surtout sur les pauvres. Si quelqu'un est pauvre, tu lui as pris un dollar de plus, comme si tu as pris une partie de son âme. Alors c'est pour ça que c'est très important que le jugement soit véridique, et même celui qui a été culpabilisé et il est 100% sûr qu'il l'est pas, alors qu'il le prend sur la pensée que peut-être il a dû à cette personne de l'argent d'une réincarnation avant, ça veut dire d'une génération avant, maintenant et tout ce qu'il fait, il est en train de la payer. Il ne faut pas qu'il s'en fait. Pour ça, Akosh Bokhu va lui rendre, et s'il ne mérite pas, voilà, il a payé une dette, et c'est pas plus que ça. Alors voilà.